Radio Kapi. Oh, Kapi.
Pour démarrer cette édition de midi, nous nous associons à vous tous congolais qui êtes dans l'élan de cette importante rencontre de football qui oppose les Léopards de la RDC aux Lions de la Tasse du Maroc. Ainsi, nous voyons tout de suite comment ce moment se vit à Kisangani, Lubumbashi et ici à Kinshasa au niveau des officiels, notamment à la présidence du Sénat. Nous vous parlons aussi de cet accident qui tue une dizaine de personnes dans la province du Haut-Touélé sur la route Ouattara-Arou. Le drame est survenu hier jeudi dans la soirée. Simone Gbagbo, femme politique et ex-première dame de la Côte d'Ivoire, parle aux femmes sous l'entrepreneuriat féminin. Elle séjourne ici à Kinshasa et nous la recevrons dans ce journal comme invitée. Restez branchés sous les différentes fréquences de Radio Okapi à travers le pays pour vous abreuver des nouvelles de la RDC. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Van Lutumba. Le match de barrage aller RDC Maroc de Mondial Qatar 2022, vous le savez, c'est pour ce vendredi après-midi ici au Stade des Martyrs à Kinshasa. Dans la province de la Tchopo, les sportifs attendent de pied ferme à ce match de football. À quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre, quelles sont les dispositions prises localement pour suivre ce match et accompagner les 11 nationales à la victoire? Jacques Mkonkole nous en parle.
Comment suivre à la télévision ce match d'une si grande importance alors que l'électricité pose problème dans la ville de Kisangani? La Société nationale de l'électricité essaie de prendre la mesure de l'événement. Son directeur provincial intérimaire assure à la population la fourniture de l'électricité dans les lieux publics et stratégiques de la ville. Ceci afin de lui permettre de suivre ce match en direct à l'écran. Pour cela, Nathan Chirimwami demande à la population de ne pas tripoter les installations de la SNEL afin d'éviter tout désagrément. Y afférent. Pour sa part, le gouverneur des provinces, au cours d'un échange avec les comités locaux de soutien aux Léopards, hier, a appelé les Boyomé à contribuer chacun à sa manière au succès des ambassadeurs de la RDC à cette compétition. Maurice Abibou Sakapela.
Ce soir, qui c'est qui savent prier Dieu, que puisse prier Dieu. Et alors, le vrai Dieu du football. Et ceux qui savent invoquer nos ancêtres, qu'ils le fassent également.
À noter qu'au cours de ces échanges entre les deux parties, le président du comité à les îles Léopards, Sylvain Massoudi Moudimbi, a remercié les gouverneurs de province pour son message de mobilisation et de soutien aux fauves congolais. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Pendant ce temps, Lubumbashi, la mobilisation est à la hauteur de l'événement. Des écrans géants sont placés ça et là pour parer à toute éventualité des coupures de l'énergie électrique dans les maisons d'habitation. Un reportage de Jean Gandou.
Cette rencontre sportive que d'aucuns qualifient de tous les enjeux et de tous les dangers est quasiment sur toutes les lèvres. Les Louchois en parlent partout. À travers les différentes artères de la ville, plusieurs petits gadgets aux couleurs du drapeau national sont proposés aux passants par les vendeurs à la sauvette. Pendant ce temps, les motocyclistes communément appelés Manseba font le tour de la ville. Les uns klaxonnant, les autres au moyen des vuvuzelas font grand bruit. Pour la circonstance, plusieurs personnes circulent avec des drapeaux nationaux à la main et les autres en t-shirt frappé de l'effigie du Léopard. À travers les médias locaux, des émissions sportives sont organisées. La passion, les émotions, les nationalismes s'entremêlent et les débats sont de plus en plus houleux. Il y en a qui organisent les émissions à téléphone ouvert où ils reçoivent les pronostics des uns et des autres. Si la plupart croient en la victoire de la RDC, ils indiquent cependant que la tâche ne sera pas facile pour les locaux. Et les messages de soutien aux Léopards fusent de partout. Les Léopards sera-t-il cette fois-ci le roi de la forêt à la place du lion? La question reste posée et la réponse est attendue au coup de sifflet final. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Rendons-nous au Sénat où, avant de lever la séance de la plénière du jeudi consacrée au projet du calendrier des matières à traiter pendant la session de mars, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé à la mobilisation de tous pour un soutien total aux Léopards de la RDC qui joue ce vendredi contre le Maroc dans le cadre du match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. On écoute Modeste Bahati Lukwebo au micro de Michel Kifinda.
Nous voudrions, avant de nous lever, souhaiter plein succès, une victoire écrasante à notre équipe nationale de football, les Léopards. Le match décisif, c'est vendredi 25 mars 2022. C'est un match de barrage pour participer à la Coupe du Monde de Qatar. Comprenez l'enjeu et votre soutien et vos prières accompagnent notre équipe nationale de Léopards.
Nous parlons actuellement de cet accident dans la province du Haut-Touélé. Une dizaine de morts, tel est le bilan de cet accident de véhicule sur la route Ouattara-Arou hier vers 18h. Le drame s'est produit sur la colline Tanzi en territoire de Faradjé. Toutes les victimes ont été ramenées à la morgue de Durba en territoire de Ouattara. Le gouverneur de province Christophe Basséané Nanga annonce la prise en charge des obsèques et l'assistance des familles des victimes. Jacques Mokonkole.
Le véhicule ayant causé une dizaine de morts hier, selon le bilan provisoire établi jusque-là, est le troisième à connaître l'accident en l'espace de quelques minutes sur cette route. Un premier véhicule a marché sur un enfant. Ce dernier est mort après avoir perdu ses deux jambes. Un deuxième véhicule accidenté au même endroit n'a pas fait de victimes. 15 minutes plus tard, un troisième véhicule s'est renversé, occasionnant une dizaine de morts et plusieurs blessés. Ce véhicule transportait une grande quantité de sacs de braise et autres marchandises, ainsi que de nombreux passagers. Bien que ce véhicule ait connu une panne technique, le non-respect des lois du pays par les camionneurs serait une des causes principales de tous ces accidents. C'est pourquoi Christophe Bassane Nanga dit avoir dépêché le vice-gouverneur Christian Pitanga sur le lieu du drame afin d'organiser les obsèques des victimes et l'assistance de leurs familles. Il doit aussi faire appliquer les lois du pays.
Par moment, vous empêchez aux gens de se mettre avec des marchandises comme des oiseaux sur un camion. Ils considèrent ça comme des tracasseries. On met les roulages pour empêcher que les gens ne puissent pas se mêler à des transports qui prennent des bus transports qu'on nous a remis par les chefs de l'État. Non, ils estiment que non, ils doivent convoyer leurs propres marchandises dans des conditions inhumaines.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La communauté humanitaire œuvrant en RDC a besoin de plus d'un milliard de dollars américains pour répondre aux besoins ainsi qu'aux interventions humanitaires dans l'est de la RDC. C'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC en charge des questions humanitaires qui l'a réitéré hier jeudi devant la presse à Goma. Ce financement devra aider le travail des humanitaires à faire face aux besoins profonds des nécessiteux. Le point avec Gabriel Ouaménia.
Le plan de réponse humanitaire 2022 en République démocratique du Congo est plus costaud que celui de l'année passée 2021 au regard des nombres de personnes déplacées. De ce fait, tous les besoins réunis requièrent un financement de plus de 1 milliard de dollars américains, indique Bruno Lemarquis.
Le plan de réponse humanitaire pour 2022, nous sommes à la recherche de 1,88 milliard de dollars pour l'année 2022 pour appuyer des millions de personnes dans le besoin. Donc ça aussi, c'est une contrainte pour les acteurs humanitaires de terrain, notamment dans l'est du Congo où la plupart des besoins se trouvent.
Pour mettre un terme à cette complexité de la situation humanitaire qui affecte plus d'un million de personnes en RDC en général, le chef des opérations humanitaires promet de se pencher sur les causes structurelles et profondes qui freinent le développement de la RDC. Bruno Lemarquis.
Moi, c'est toujours d'aller sur les causes profondes et que j'appelle les nœuds gordiens qui font qu'un pays est instable, un pays a des déficits de développement, essayer de régler ces problèmes de fond qui entraînent des conséquences.
Rappelons que la province du Nord Kivu compte plusieurs milliers de personnes déplacées et sont réparties dans plusieurs dizaines de sites à travers les différents territoires. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Et puis cette nouvelle sanitaire dans le Haut-Katanga, la campagne gratuite des chirurgies cardiaques pédiatriques se poursuit sans désemparer. Au centre médical Diamant à Lubumbashi, les premiers enfants opérés sont déjà dans la salle à la grande satisfaction de leurs parents. Jean Gandou a rendu visite à un des malades.
L'attente aura été longue pour les parents du petit Emmanuel qui a traîné sa maladie depuis la naissance. Pendant que l'enfant était dans la salle d'opération, les parents ne cessaient de prier. Les 3 heures que le petit Emmanuel a passé dans la salle d'opération ont paru comme une éternité pour les parents. Soudain, la porte de la salle d'opération s'ouvre. Le petit Emmanuel, marchant à petits pas, soutenu par le membre du corps médical, s'avance sous les ovations des parents et autres membres des familles présents. Pour son père, c'est un ouf de soulagement car son enfant a beaucoup souffert avec cette maladie.
Ça fait déjà 3 ans que l'enfant souffrait avec cette maladie-là. L'enfant avait un trou qui avait au moins 1,4 cm. Tout ce temps, si on suivait les soins ailleurs, on nous disait qu'il n'y a pas le médicament à donner. C'est Dieu qui a permis à ce que l'enfant arrive jusqu'à ce niveau ici à 3 ans avec cette maladie. Le plus grand de tous les mots que nous pouvons dire à cet instant ici, c'est merci. L'enfant se porte mieux. Quitter la salle de l'opération, celui-même qui marchait jusqu'ici. Mon enfant ici est le témoignage vivant qui a subi l'opération et il est là en vie. Je n'ai rien payé, même un franc, donc j'ai plus dit.
Notons que jusqu'à ce vendredi matin, ce sont 4 enfants sur les 25 qui sont déjà opérés depuis le début de la campagne. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Nous rendons au Sud Kivu où on note une disparité du prix de carburant qui est observée dans les différentes stations service de la ville de Bukavu. Certaines stations en revendent le litre d'essence au prix fixé dernièrement par le ministère de l'Économie, tandis que d'autres sont au-delà de cette marge. Le Club des pétroliers du Sud Kivu a saisi le gouvernement central pour un réajustement des prix. Emmanuel Elmejoua Kabidi.
Le prix du litre d'essence dans la ville de Bukavu varie d'une station-service à une autre. Cela depuis plus de mois maintenant que le carburant est devenu de plus en plus rare au Sud Kivu. À ce jour, seule la station indienne au cœur de la ville de Bukavu maintient le tarif fixé dernièrement par le ministère de l'Économie nationale, soit 2450 francs congolais le litre. Non loin de là, d'autres opérateurs pétroliers servent les clients jusqu'à 3000 francs congolais le litre. Le gouvernement provincial du Sud Kivu affirme reconnaître cette situation et que ces services sont à pied d'œuvre. La ministre provinciale de l'économie indique que la rareté du carburant à Bukavu est due au fait que le pays voisin qui ravitaillait les opérateurs pétroliers de Bukavu en essence a momentanément stoppé. Conséquence, chaque opérateur pétrolier se débrouille à sa manière pour faire arriver le carburant à Bukavu. Ainsi, le club de pétroliers du Sud Kivu a saisi le gouvernement central à travers le ministère de l'économie pour un réajustement de prix de carburant en cette période de rareté. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Nouvelle de sécurité avant de passer à la page internationale au Nord Kivu. La mutualisation des forces entre la MONUSCO, les FRDC et l'armée ougandaise a été au centre d'un entretien hier jeudi entre une délégation des députés nationaux du Grand Nord et le chef des bureaux adjoints de la MONUSCO Beni, Abdourahmane Gamda. La rencontre a eu lieu au quartier général de la MONUSCO à Boïkéné. Il a été question pour ces délégations de se rendre compte de l'effectivité des opérations sur terrain contre les groupes négatifs, notamment les ADF. La délégation s'est dit satisfaite de constater que la MONUSCO travaille en collaboration avec les FRDC. Le député Albert Baliesima Kadukima, président du caucus des députés du Grand Nord, explique au micro de André Kitenge.
Nous sommes contents de constater que la MONUSCO a commencé à travailler en collaboration avec les FARDC. Et sur terrain, ils nous ont montré les réalisations, les actions qu'ils ont faites ensemble et ça nous encourage. Nous pensons que si les opérations continuent comme ça, nous pouvons espérer que la paix pourra revenir d'ici là dans le territoire de Beni. Et nous sommes rassurés que même les élections pourront se passer dans de bonnes conditions de sécurité. Et donc, nous, en tant que députés nationaux, nous avons beaucoup à faire avec cette mutualisation des forces, parce que la mutualisation des forces ne peut pas aller au bout de la guerre sans la collaboration avec la population. Et nous, comme nous sommes une émanation de la population, nous devons beaucoup communiquer avec la population. Et nous voudrions aussi que la MONUSCO puisse continuer à communiquer et à collaborer avec la population sur ce qu'elle est en train de faire parce que ça nous rassure.
Actualité internationale.
Tenue du premier forum des affaires entre l'Angola et l'Union européenne jeudi à Bruxelles. Après une journée de panel, il permettra d'ouvrir une série de dialogues publics-privés afin de convaincre les Européens à investir dans le pays. Devant plus de 800 participants, le gouvernement a présenté les réformes effectuées par l'Angola ces dernières années. Pendant la journée, un accord a été signé avec l'entreprise néerlandaise Flying Swans pour développer le secteur de la chaîne du froid, le pays proposant désormais des conditions plus favorables aux investisseurs étrangers. Quelques heures après la trêve humanitaire illimitée décrétée dans la région du Tigré par le gouvernement éthiopien, les rebelles du TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigré, ont immédiatement réagi. La paix et non la guerre a toujours été notre choix. Même en ce moment, la guerre n'est pas notre choix, lit-on dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le mouvement accepte ainsi de se plier à la décision gouvernementale. Selon Addis Abeba, cette cessation des hostilités permettra d'acheminer l'aide humanitaire dont des milliers de personnes de la région du Tigré attendent depuis des mois.
L'invité.
Simone Gbagbo, femme politique et ex-première dame de la Côte d'Ivoire, séjourne à Kinshasa pour intervenir à la 4e édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs, une activité de la Fondation Néema. Elle a échangé avec Jody Daniel Kachama sur les défis et solutions pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Suivez.
Madame Simone Gbagbo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes femme politique et vous vous intéressez aussi à l'entrepreneuriat féminin. Alors parlez-nous de l'expérience que vous avez eue avec les femmes de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Mais vous savez, si on veut faire de la politique de la bonne manière, on est obligé de s'intéresser aux activités qui sont menées. Et en tant que femme, c'est vrai que j'ai eu à m'intéresser aux activités que mènent les femmes. Et c'est tellement important que, au plan économique, les femmes deviennent de véritables agents, n'est-ce pas, dans la production, dans la commercialisation, dans la transformation des produits, que bon, j'ai eu effectivement à m'intéresser un petit peu à tout ça.
Et quelles sont les difficultés auxquelles ces femmes entrepreneurs sont généralement confrontées?
Les femmes entrepreneurs sont confrontées à toutes les difficultés qu'un entrepreneur en Afrique, n'est-ce pas, rencontre sur son chemin, que ce soit un homme ou une femme. Elles ont des problèmes d'ordre économique. Il faut leur trouver des finances pour les aider à lancer leur activité. Mais il y a également toutes les questions qui relèvent des textes, etc., qui sont également des questions auxquelles elles sont confrontées. Il y a des problèmes de formation. Quelquefois même juste des problèmes d'information pour savoir qu'avec tel produit, on peut faire telle chose, qu'il faut prendre telle disposition pour éviter de faire du gaspillage, pour éviter de provoquer de la pollution, etc. Elles sont confrontées à toutes ces questions-là. Elles sont confrontées à la question du marché. Il faut que les marchés soient organisés, il faut que les marchés les accueillent pour que leur activité, leurs produits soient vendus, soient bien distribués, etc. Bon, on peut passer la journée à énumérer les problèmes.
Pour aider les femmes en Afrique en général, et au Congo en particulier, à évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous?
Il y a plusieurs choses à faire. Il y a au niveau même du financement, il faut pouvoir mettre en place des financements auxquels les femmes soient accessibles et qui leur permettent de créer leurs investissements ou bien d'organiser leurs activités, etc. Il faut de la formation. Il faut leur apporter de la formation adaptée. Par exemple, une agricultrice traditionnelle, elle doit passer à des techniques modernes, mais il faut l'encadrer pour cela. Il faut l'aider pour cela. Il faut que les marchés soient organisés. Au plan national, il faut que les marchés soient organisés et il faut que les infrastructures soient également réalisées pour permettre le transport des produits. J'ai pas toujours de vivrier parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Le transport des produits depuis les champs jusqu'au marché. Et il faut que tout cela soit organisé. Donc il y a des choses qui vont relever de leurs propres compétences. Mais il y a des choses qui vont relever de la compétence de l'État. Il y a des choses qui vont relever de la compétence des organismes financiers qui existent dans une nation. Tout cela là doit être organisé et mis, n'est-ce pas, je dis pas à la disposition, mais rendu accessible par les femmes entrepreneurs.
Terminé à l'occasion du mois de la femme, le mois de mars, quel message vous adressez à toutes les femmes congolaises qui vous écoutent en ce moment?
Ah, je leur souhaite d'abord une bonne fête de la femme, hein. Ça c'est très important. Il faut que les femmes comprennent qu'elles constituent la moitié de l'humanité et qu'elles ont un rôle extrêmement important à jouer dans une société. Il y a cela. Mais je leur demande également de se lever pour devenir des agents modernes, aussi bien dans la production que dans la gestion d'une société. Il faut qu'elles deviennent vraiment des agents modernes, des agents compétitifs, n'est-ce pas, dans la société. Et ça, elles peuvent le faire.
Madame Simone Gbagbo, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci.
À vous, auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Noéla Lousitou et l'ensemble de la rédaction. Mimi Kindo a assuré la prise des soins et la mise en onde et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté.